Chapitre 25. Quand Richard eut mis pied à terre près d'un des curieux arbres qu'il appelait des pins compagnons, Nietzsche prit les rênes de l'étalon et alla l'attacher avec la jument à un aulne aux branches lestées de chatons. Affamés, les deux montures se jetèrent sur le peu d'herbe humide qu'elles trouvèrent autour d'elles. En les regardant se nourrir, Nietzsche sentit peser sur sa nuque le regard agressif de son prisonnier. Sans dire un mot, il s'éloigna pour aller collecter du petit bois au pied de plusieurs arbres. Du coin de l'œil, la sœur de l'obscurité le surveilla tandis qu'il s'acquittait de cette corvée. Il était exactement comme dans son souvenir, mais avec quelque chose de plus. Toujours aussi imposant sur le plan physique, il avait encore gagné en autorité et en aura. Au palais des prophètes, il lui était arrivé de penser à lui comme à un garçon. Aujourd'hui, même si elle utilisait parfois ce mot, ça ne lui serait pas venu à l'esprit. Désormais, il évoquait un bel étalon piégé dans un enclos qu'il aurait construit lui-même. Nietzsche se tenait à distance, le laissant ruer tout son sou. Le provoquer ne lui aurait rien apporté, et retourner le couteau dans la plaie au sujet des récents événements était la dernière chose qu'elle voulait. Qu'il soit furieux n'avait rien d'étonnant. En un clin d'œil, Nietzsche avait mesuré la profondeur des sentiments, réciproques qui plus est, qui le liaient à Callan, et cet amour le garderait prisonnier jusqu'à la fin de ses jours. Malgré toute sa compassion pour Richard, la sœur de l'obscurité avait conscience d'être la personne la moins qualifiée pour le réconforter. La blessure qu'il portait serait longue à guérir. Ensuite, il faudrait peut-être l'enfermer dans un nouvel enclos. Tôt ou tard, il se résignerait à n'être plus jamais libre. Ce jour-là, il commencerait à voir la beauté et la véracité de tout ce qu'elle avait l'intention de lui montrer. Peu à peu, il admettrait qu'il avait tort et que Nietzsche disait la vérité. C'était inévitable. Nietzsche s'assit sur un gros bloc de granit sans doute arraché par les intempéries à la saillie rocheuse qui émergeait des broussailles juste derrière elle. Au fil du temps, la pierre dont on distinguait encore les arêtes irrégulières, du côté de la cassure, avait été éloignée par les forces de la nature de la saillie avec laquelle elle ne faisait qu'une des siècles plus tôt. Le dos bien droit, une attitude inculquée par sa mère, Nietzsche regarda Richard desseller les chevaux. Quand ce fut fait, il leur donna une ration d'avoine, dans un sac conçu pour être accroché à leur tête, et alla ramasser des pierres entre les arbres. Au début, la sœur de l'obscurité ne comprit pas ce qu'il faisait. Puis elle se souvint de la veille et devina qu'il entendait entourer de cailloux sa petite fosse à feu. De fait, il entra sous le pin compagnon et y resta un long moment. Nietzsche lui aurait volontiers proposé d'embraser le feu avec son pouvoir, s'il lui en était resté assez pour ça. Hélas, son Han ne réussirait pas à produire une étincelle. Mais au fond, Richard n'avait pas besoin d'elle. La veille, il s'en était admirablement bien tiré. N'ayant jamais été une femme des bois, elle décida de le laisser se débrouiller et passa le temps en vérifiant la sangle ventrale de sa jument. La pluie avait enfin cessé, laissant une sorte de rosée sur son front et ses joues. Au moment où elle relevait les yeux de la sangle, un crépitement apprit à Nietzsche que Richard en avait terminé. Un bruit de métal posé sur de la pierre lui indiqua qu'il avait mis de l'eau à chauffer. Quelques secondes plus tard, il sortit du refuge et alla s'occuper des chevaux. Retirant les mangeoires portatives, il alla faire boire les talons et la jument à une petite mare non loin de là, puis il les bouchonna consciencieusement. Même dans sa tenue noire de forestier et alors qu'il jouait les garçons d'écurie, il avait l'allure d'un roi. À la place de l'étalon et de la jument, la sœur de l'obscurité aurait été ravie que des mains si fortes et pourtant délicates lui prodiguent des soins. « Tu as dit que nous devions parler ?» lâcha-t-il tandis qu'il étriait la croupe de la jument. « Je suppose que c'est pour me communiquer les conditions de ma captivité. Comme tous les geôliers, tu dois aimer les règlements. » Un ton un rien provocateur pour tester ses réactions, comprit Nietzsche. Décidant qu'il avait assez boudé, il passait à des manœuvres plus subtiles. « Richard, » dit-elle d'un ton très doux, « ne suppose pas que ce qui t'est déjà arrivé va recommencer. » L'histoire ne se répète pas, tu le sais bien. Ce sera très différent des deux fois précédentes. » Cette réponse parut surprendre l'ancien maître de l'Empire d'Aran. Afin de garder une contenance, il prit un peu plus de temps que nécessaire pour ranger les tris dans une sacoche de sel. Les deux fois précédentes. Il ne pouvait pas se méprendre sur ce qu'elle voulait dire. Mais rien sur son visage ne trahit ses pensées tandis qu'il soulevait une jambe de l'étalon pour nettoyer le sabot. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Une vieille tactique. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Ne désirant pas livrer à Nietzsche des informations précieuses, il l'incitait à parler afin de découvrir ce qu'elle savait vraiment. Au passage, il espérait sans doute apprendre comment elle entendait éviter les erreurs commises par ses autres geôliers. Tout guerrier aurait agi ainsi. Pour le moment, il n'était pas prêt à comprendre et encore moins à accepter que cette captivité-là n'aurait aucun rapport avec les précédentes. Quand il eut fait le tour de l'étalon et nettoyé tous ses sabots, Nietzsche se leva et avança sur la pointe des pieds. Lorsque Richard se retourna, ils étaient assez près l'un de l'autre pour qu'elle sente son souffle sur ses joues. Il foudroya Nietzsche du regard, une réaction qui impressionna moins la sœur de l'obscurité qu'au temps du palais des prophètes. Au lieu de reculer, comme jadis, elle plongea les yeux dans ceux de Richard, émerveillée à l'idée qu'elle le tenait enfin. Réussir à mettre la lune et les étoiles en bouteille ne l'aurait pas plus étonné que cet exploit-là. « Tu es prisonnier, » dit-elle. « Et il est normal que ça te déplaise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ravi. Mais c'est différent de tes deux autres expériences. » Elle lança une main et la referma sur la gorge de Richard. Il tressaillit de surprise mais sentit que ce n'était pas un geste menaçant. « Tu avais un collier autour du cou en ces occasions. » « Tu étais au palais des prophètes quand on m'y retenait, » dit Richard. « Mais l'autre fois... » Nietzsche le sentit déglutir péniblement et lui lâcha la gorge. « Contrairement aux sœurs de la lumière, je n'utiliserai pas un collier pour te contrôler, te faire souffrir et te forcer à participer à des épreuves ridicules. Mon objectif n'a rien à voir avec ça. Tu te souviens du jour de ton arrivée au palais et du petit discours que tu as prononcé ?» Pas mot pour mot, non. Là encore, il se montrait prudent pour ne livrer aucune information. Moi, je n'en ai pas oublié un seul. C'était la première fois que je te voyais, et cet instant est resté gravé dans ma mémoire. Richard ne dit rien, mais à son regard, Nietzsche devina qu'il réfléchissait intensément. Tu étais foudrage, un peu comme maintenant, et tu brandissais une tige de cuir rouge pendue à ton cou. « Tu te rappelles ?»«
Vaguement, » mentit Richard. « Beaucoup de choses sont arrivées depuis. Pour être franc, ça m'est un peu sorti de la tête. »«
Tu as dit que ce n'était pas la première fois qu'on t'imposait un collier. Ta geôlière, as-tu précisé, utilisait la souffrance pour te dresser ?»«
Peut-être, mais... où veux-tu en venir ?»
Nietzsche sonda les yeux gris qui ne manquaient pas le plus infime de ses mouvements. Richard analysait chaque parole qu'elle prononçait, et il tentait de déterminer quel avantage il pourrait tirer de la situation. Comme un cheval prisonnier dans un enclos, il évaluait la hauteur de la clôture, se demandant s'il pourrait sauter aussi haut. C'était impossible, il le comprendrait vite.
« J'ai toujours été intrigué par ta première captivité. Il y a quelques mois, nous avons piégé une femme en uniforme de cuir rouge. » Une mort de suite, je veux dire. »
Richard pâlit presque imperceptiblement.
Elle cherchait le seigneur Rall pour le protéger.
Imagine que je l'ai convaincue de me raconter tout ce qu'elle savait sur toi. Je n'ai pas grandi en Dara, donc ta mort de suite n'a pas pu te révéler grand-chose.
Une sonde subtile, histoire d'en découvrir plus. Mais derrière son assurance de façade, Richard paniquait, c'était évident pour la sœur de l'obscurité. Elle sortit la gielle qu'elle avait prélevée sur le cadavre de la prisonnière et le jeta aux pieds de son prisonnier.
« Tu te trompes, mon garçon. Elle avait beaucoup à me dire. »
Nietzsche eut un petit sourire, pas pour provoquer sa proie, mais en hommage à la mémoire d'une femme courageuse.
« Elle connaissait Dena. » Et elle était au palais du peuple pendant que tu apprenais à devenir le chiot de ta maîtresse. »
Richard baissa les yeux, s'agenouilla pour ramasser la gielle, se redressa et essuya l'étrange arme sur son pantalon comme s'il s'agissait d'un objet de valeur.
« Une mort de site ne parle pas sous la torture.
dit-il. Et il croisa de nouveau le regard de Nietzsche. « Ces femmes sont dressées dès l'enfance pour devenir des tortionnaires. Elle t'a roulé dans la farine, voilà tout. Quelques mensonges intelligents pour te désorienter. Plutôt que de trahir le seigneur Rall, les femmes en rouge, comme tu dis, préfèrent mourir. »
Du bout d'un index, Nietzsche écarta délicatement une mèche blonde de sa joue.
« Tu me sous-estimes, Richard. Cette femme était très brave et j'avais beaucoup de peine pour elle, mais il me fallait des informations et je les ai obtenues. »
Richard s'empourpra de colère. Nietzsche eut une moue désabusée. Ce n'était pas l'effet qu'elle recherchait. Alors qu'elle lui disait la vérité, il embrouillait tout avec ses fausses suppositions. Mais cela ne dura pas. Dans ses yeux, la sœur de l'obscurité vit qu'il se rendait peu à peu à la raison. Soudain, sa rage disparut, remplacée par une terrible tristesse. Sans doute parce qu'il pensait au sort affreux de la mort de Sitte. Exactement la réaction que Nietzsche attendait de lui.
« Si j'ai bien compris, Dena était une experte de la torture.
Je n'ai que faire de ta compassion.
Pourtant, je suis touché par ce que t'a infligé, Dena. Tu as souffert pour rien. Personne n'en a tiré de bénéfice. De plus, tu n'avais rien à avouer. L'inutilité de ce calvaire le rend encore plus terrifiant, et tu l'as enduré jusqu'au bout. »
Nietzsche désigna la gielle dans la main de Richard.
Sa propriétaire n'a pas dû subir ce genre d'épreuve. Je veux que tu le saches.
Richard pinça les lèvres et détourna le regard, sondant les ténèbres qui s'épaississaient.
Tu as tué Dena, mais avant, elle t'a infligé d'indicibles tourments.
Possible, mais je l'ai tué quand même.
Une menace très explicite et parfaitement hors de propos.
Ensuite, tu as menacé les sœurs de la lumière parce qu'elles aussi voulaient te mettre un collier. Tu leur as dit qu'elles n'arriveraient pas à la cheville de Dena en matière de cruauté, et qu'elles pensaient te tenir en laisse, mais découvriraient bientôt qu'elles serraient la foudre dans leurs poings. Ne va pas imaginer un instant que je n'ai pas compris tes sentiments, ni admiré ta détermination.
Du bout d'un index, Nietzsche tapota la poitrine de Richard.
Mais cette fois, le collier est autour de ton cœur, et c'est Callan qui mourra si tu commets une erreur.
Le sourcier serra convulsivement les poings.
Callan préférerait disparaître que me savoir en esclavage à cause d'elle. Elle m'a imploré de préférer ma liberté à sa vie. Un jour, je jugerai peut-être le moment d'accéder à sa requête.
Nietzsche ne broncha pas sous cet assaut verbal. Tant de gens l'avaient menacé par le passé.
Le choix te revient, Richard, et ne te méprends pas en supposant que ça me tracasse le moins du monde. Combien de fois Jagang avait-il proféré devant elle de terribles menaces, souvent en lui serrant la gorge et après l'avoir roué de coups.
Dans ce registre, Kadar Cardiff avait largement été l'égal de son maître.
Depuis le jour, dans son enfance, où un homme l'avait attirée dans une ruelle pour la détrousser, elle avait perdu le compte des moments où elle aurait juré être à un souffle de la mort. Mais quitter ce monde n'était rien comparé à ce qui l'attendait après.
Richard, dans mes rêves, le gardien m'a promis une éternité de souffrance. Tel est mon destin. Alors n'espère pas m'effrayer avec tes ridicules menaces. Des hommes bien plus méchants que toi ont juré de me tourmenter. Depuis longtemps, j'ai accepté mon sort et cessé de m'en soucier.
Vidé de tout sentiment, Nietzsche laissa retomber les bras le long de son corps. Penser à l'empereur et au gardien venait de lui rappeler que la vie n'avait aucun sens. Mais ce qu'elle avait vu dans les yeux de Richard lui avait redonné un peu d'espoir, et elle devait découvrir ce que c'était.
« Que veux-tu de moi ?»
demanda le sourcier déchu. Nietzsche revint au présent.
« Je te l'ai déjà dit. Désormais, tu joueras le rôle de mon mari. Si tu veux que Callan vive, il faudra t'y résoudre. Je ne t'ai menti à aucun moment. Accompagne-moi, exécute les ordres simples que je te donne, et la mère inquisitrice aura une très longue vie. Peut-être pas heureuse puisqu'elle t'aime, mais je n'y peux rien.
Combien de temps crois-tu pouvoir me retenir, Nietzsche ?
Richard passa nerveusement une main dans ses cheveux mouillés.
Quoi que tu veuilles, tu ne l'obtiendras pas. Quand te lasseras-tu de ce jeu idiot ?
Surprise, la sœur de l'obscurité dévisagea son prisonnier.
Était-il naïf ou ignorant ? Les deux, peut-être. Mon cher garçon, je suis venu au monde il y a 181 ans et tu le sais très bien. Tu penses que ce n'est pas assez pour apprendre à attendre? Nous semblons avoir le même âge et c'est la vérité sur certains points, mais j'ai vécu presque 7 fois plus longtemps que toi. Tu crois pouvoir me battre au jeu de la patience? Me prends-tu pour une jeune femme facile à berner?
Nietzsche, je...
commença Richard, nettement moins agressif.
N'envisage pas de m'amadouer en faisant ami-ami ou en me séduisant. Je ne suis pas Dena et encore moins Verna, Warren ou cette petite dinde de Pacha. Sache que l'amitié ne m'intéresse pas.
Richard se tourna aux trois quarts et tapota le dos de l'étalon pour le calmer. Énervé par l'odeur de la fumée qui s'échappait du pain compagnon, le cheval raclait le sol en hennissant tout bas et ce n'était jamais bon signe.
« Dis-moi ce que tu as fait à cette pauvre femme pour qu'elle te parle de Dena. »«
Rien. La mort de Sid m'a tout dit parce que je lui ai accordé une faveur. »
Richard sursauta et se tourna de nouveau vers Nietzsche.
« Une faveur à une mort de Sid? Laquelle ?»«
Lui couper la gorge. »
L'ancien maître de l'Empire d'Aran baissa la tête, accablé de chagrin à l'idée qu'une inconnue était morte à cause de lui. D'instinct, il pressa contre son cœur la gielle de la mort de Sid.
« Tu ignores son nom, bien entendu. »
Nietzsche jubila intérieurement. Richard était pétri de compassion, même pour des gens qu'il ne connaissait pas. Cela faisait de lui l'homme qu'il était, mais ça l'enchaînait. Cette bonté naturelle l'amènerait tôt ou tard à comprendre pourquoi elle luttait, et il se rallierait à la juste cause de l'ordre impérial.
« Tu te trompes. Elle s'appelait... Anya.
Anya, je ne l'ai jamais rencontrée. »
Nietzsche tendit un index et releva le menton du sourcier.
Richard, sache que je ne l'ai pas torturée. Quand je l'ai découverte, on l'avait atrocement charcutée et j'ai tué le coupable. Anya était perdue. Je lui ai offert une mort rapide si elle consentait à me parler de toi. Pas à te trahir au bénéfice de l'ordre, ne te méprends pas. Je l'ai interrogé sur ta première captivité, pour mieux comprendre ce que tu as dit le jour de ton arrivée au palais des prophètes. »
Richard ne parut pas soulagé. Une déception pour sa geôlière.
« Pour l'achever, tu as attendu qu'elle t'ait dit tout ce que tu voulais entendre. C'était une forme de torture. »
Au souvenir de cet acte sanglant, Nietzsche détourna la tête pour ne pas montrer la vague mélancolie qui lui étreignait le cœur. Depuis très longtemps, les drames ne lui retournaient plus les entrailles comme dans sa jeunesse. Tant de gens avaient besoin qu'on les soulage de leur fardeau. Les vieillards, les malades, les enfants affamés, les miséreux, les réprouvés et les désespérés. Anya n'était qu'une victime de plus qu'elle avait arrachée aux griffes du malheur. Tout était pour le mieux.
Nietzsche s'était détourné du Créateur et avait voué son âme au gardien du royaume des morts. Il le fallait pour expier son manque de véritable compassion. Bizarrement, sa conversion lui permettait désormais de venir plus facilement au secours des déshérités. Elle avait changé de route, mais la destination finale restait la même.
« Tu vois les choses comme ça, Richard, » dit-elle enfin, « et c'est ton droit. Mon point de vue est différent et Anya le partageait. Avant que je l'égorge, elle m'a remercié. »
« Et pourquoi voulais-tu qu'elle te parle de Dena et de moi ?»
N'est-ce pas évident?
Tu ne pourrais pas commettre les mêmes erreurs que Dena, Nietzsche. Tu n'es pas une femme de sa trempe.
La sœur de l'obscurité fut soudain rattrapée par la fatigue.
La première nuit, alors qu'elle faisait semblant de dormir, elle avait senti le regard de Richard peser sur sa nuque. Consciente de sa souffrance, elle avait pleuré en imaginant combien il devait la haïr. Comme il était dur d'accepter de faire le bien dans un monde si mauvais. « Un jour, Richard, tu consentiras peut-être à m'expliquer en quoi nous sommes différents. »
Nietzsche était épuisé. La nuit précédente, alors que Richard s'était autorisé du repos, elle n'avait pas dormi non plus, le regardant respirer régulièrement tout en sentant sa propre connexion avec la magie de la mère inquisitrice. Ce lien la rapprochait beaucoup de Callan.
Mais pourquoi s'en inquiéter?
Tout était pour le mieux dans le pire des mondes. « Si nous nous mettions à l'abri, Richard, je meurs de froid et de faim. Ensuite, il faudra nous reposer. Mais avant de dormir, nous avons des choses à nous dire. »
Elle ne pourrait pas lui mentir, et elle le savait. Bien entendu, elle ne lui dirait pas tout, mais ce qu'elle lui révélerait devait être la stricte vérité. Le contraire aurait été bien trop périlleux. Le balai mortel venait de commencer.